Aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont consommer une marque plus pour son action sur la société que pour son produit en lui-même.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffray.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Activer l'économie circulaire. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Reb, le cofondateur de l'agence Useful. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Je suis très content de te recevoir aujourd'hui, enfin même si c'est toi qui me reçois physiquement, mais bon, on se comprend. Ça fait quelques années qu'on a bossé ensemble, puis on continue à échanger. Donc, t'es plutôt justement, enfin, tu vas nous présenter un spécialiste du marketing, notamment du marketing, on va dire utile, quoi. Est-ce que déjà, bah, tout simplement, tu peux te présenter et nous présenter ton parcours?
Alors, donc je m'appelle Gilles Reb, je suis alsacien d'origine, ça fait 15 ans que je suis à Paris pour le boulot, comme on dit. Je travaille depuis 15 ans dans la communication et ce qu'elle est devenue aussi, donc une extension vers l'expérience utilisateur, vers le digital, vers les problématiques aussi de communication responsable, donc... Voilà, ça fait quelques années qu'on mélange un peu tout ça. Moi, je suis très passionné par les marques, le fonctionnement des systèmes type entreprise. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveaux sujets ces dernières années qui font que on a du pain sur la planche en termes de réinventer nos métiers, accompagner la transformation des modèles. Et donc... voilà, aujourd'hui, moi, j'ai fondé Useful avec Emmanuel Beaufils, dit Manu, qui, lui, a plutôt un profil technique à la base, c'est un développeur. Et donc, on a créé cette société il y a 9 ans pour accompagner les marques avec un prisme très communication, travail sur la marque, justement, comment est-ce qu'elles arrivaient aujourd'hui à s'adresser à leur public en mettant un peu toutes les problématiques sociétales au cœur de leur discours, au cœur de leur ADN même, pour que ce soit pas que du discours. Et donc voilà, on évolue, notre offre change beaucoup depuis 9 ans, parce que justement c'est assez compliqué de trouver aussi la bonne manière et le bon time to market pour ce genre de sujet. Et aujourd'hui en tout cas, voilà, on voit que c'est en train de monter vraiment en puissance. On ne pouvait pas dire que c'était le cas il y a 9 ans, par exemple.
Ouais. Oui, quand vous êtes appelé Useful, finalement, il y a 9 ans, ça ne parlait pas à grand monde, quoi.
Ça ne parlait vraiment pas à grand monde. Je pense qu'on ne savait pas forcément non plus bien l'expliquer ou clarifier notre vision. Donc forcément, voilà, il y avait aussi un petit problème de maturité de notre côté. Aujourd'hui, en tout cas, on sent que... la notion même d'engagement sociétaux, de marque responsable, de marque engagée, de marque activiste, selon un petit peu les degrés d'ambition de ces sociétés, c'est quelque chose qui devient reconnu. Il y a beaucoup de cas concrets, d'exemples qui commencent à faire école. Et donc, c'est vrai que c'est aussi un petit peu plus facile pour nous aujourd'hui de montrer qu'il y a un vrai enjeu autour de ça et que il n'y a plus le choix, en fait, que toutes les marques vont devoir tôt ou tard se lancer là-dedans. La plupart le font, mais après, voilà, il y a aussi le comment est-ce qu'on fait. Il y a encore pas mal de sujets d'amélioration à ce niveau-là, quoi.
Et puis les échelles ne sont pas forcément les mêmes, quoi.
Les échelles sont très différentes, ça dépend d'où on vient en termes de, notamment de business model. C'est sûr que ceux qui historiquement sont plutôt sur notamment par exemple l'alimentation, qui est un sujet qui de toute façon passionne, à minima en tout cas en France, les gens, auront peut-être plus de facilité à changer, parce que même si ils sont très mal partis pendant très longtemps, finalement ça a toujours existé de faire de la bouffe saine, donc c'est pas si compliqué de revenir en arrière. Il y a des sociétés dont le business model global est basé sur des choses qui sont pas pérennes pour la planète, et elles par contre vont peut-être devoir, pour se réinventer, travailler beaucoup plus.
Oui, c'est clair. Et justement, le positionnement de Useful, tel qu'il est exprimé aujourd'hui, c'est vraiment l'engagement, enfin, les marques engagées.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est pour toi une marque, enfin, l'engagement pour une marque en 2019, en fait ?
Alors, donc nous, c'est vraiment travailler sur cette notion d'engagement qui va un peu dans les deux sens. C'est un peu l'objet de nos missions, de ce qu'on essaie de faire. C'est que en accompagnant effectivement les marques sur leurs engagements, c'est-à-dire sur quels progrès sociétaux elles veulent s'engager à apporter vraiment des actions, contribuer à ce progrès. Donc là, clairement, c'est d'abord en agissant et ensuite en valorisant ça grâce à la communication. Nous, on va les accompagner sur bien choisir les actions et surtout bien les communiquer, pas en faire trop, parce qu'on peut très vite se faire accuser de washing, ce qui est complètement légitime, mais pas non plus mal le faire, pas assez, ne pas le faire auprès de tous les publics stratégiques, et donc potentiellement passer à côté aussi des bénéfices de quelquefois de gros changements opérés qui pourraient complètement passer sous le radar, parce que plutôt que de les communiquer, on continue à communiquer en faisant de la pub à la télé pour ces produits, mais voilà, on aura oublié ce qui intéresse peut-être vraiment les gens aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Donc on va beaucoup, nous, travailler sur ce que peut faire la marque pour s'engager. Donc effectivement, ses actions qu'elle peut mener, comment est-ce qu'elle implique aussi ses différents publics. Nous, on vient de beaucoup de ce qu'on appelle le marketing communautaire, donc les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on constitue des communautés, comment est-ce qu'on interagit avec elles. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour amorcer des changements, surtout quand c'est sur des sujets comme ça, sociétaux, qui passionnent un petit peu les foules, mais qui peuvent très vite être piégeux pour des entreprises qui feraient peut-être pas, qui s'y prendraient pas de la bonne manière, on essaie beaucoup de travailler en collaboration avec les parties prenantes, et c'est justement de faire en sorte que ces actions, ces choix soient suffisamment coordonnées, réfléchies, maturées, et que il y a une vraie cohérence aussi dans l'action de ces entreprises, c'est-à-dire que d'un coup, on ne se pose pas de questions sur le pourquoi elles ont opéré tel ou tel changement. C'est que ce soit voilà, relativement fluide et cohérent avec ce qu'elles sont, légitimes avec leur historique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un travail autour de la marque, mais qui colle complètement à la stratégie d'entreprise. Et de l'autre côté, donc, toutes ces actions, ces démarches qu'elles vont pouvoir mettre sur comment est-ce que, justement, je vais aller impliquer certaines parties prenantes, que ce soit quelquefois des fournisseurs. On sait qu'il y a, par exemple, il y a Unilever qui a une grosse plateforme d'innovation collaborative où tous ces fournisseurs, en fait, peuvent proposer des nouveaux produits, des nouvelles idées pour améliorer complètement la démarche d'Unilever. Donc on va avoir là clairement un programme qui va être destiné vraiment aux fournisseurs. C'est pas forcément toujours le public qu'on cite en premier dans les priorités des grosses boîtes,
mais ça fait partie des parties prenantes.
Eux en tout cas ont compris ça, et de la même manière souvent ça va être les collaborateurs, ça va être les consommateurs. Les collaborateurs, clairement, aujourd'hui, on a un vrai problème de désengagement dans la plupart des entreprises. Donc, il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on redonne du sens au travail, comment est-ce que j'ai l'impression de jouer aussi un rôle dans mon entreprise. Et en ça, on va dire, la transformation autour des problématiques sociétales, ça peut être un super levier aussi pour les remobiliser, leur redonner un peu envie de se lever le matin et d'apporter un peu d'énergie dans leur entreprise. Clairement, aujourd'hui, voilà, on est sur une très 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 faible partie de la population qui a un vrai engagement dans son travail. En France, on est en dessous de 10%, donc c'est vraiment rien.
Je crois que c'était une couverture de Society il y a quelques mois où en gros c'était un sondage qui disait il y a seulement 30% des gens ou 40% des gens qui disent que leur boulot, ils considèrent que leur boulot ne sert à rien quoi.
Ouais, bah on a en tout cas si on croise avec une étude qui justement étudie c'est l'engagement et le désengagement au travail, c'est de Gallup, c'est une société d'études. On est ouais, en dessous de 10% de gens vraiment engagés. On est pas loin de 60% en France de gens qui ne se sentent pas engagés ni désengagés, mais globalement qui s'en foutent. Et on est sur 20, pas loin de 20% qui sont activement désengagés, c'est-à-dire qui vont clairement nuire à l'entreprise. Après, forcément, l'entreprise a sa part de responsabilité là-dedans, quoi. Donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, voilà, c'est rétablir un peu les énergies. Ouais, faire en sorte que ces communautés-là, la principale étant clairement les collaborateurs, parce qu'une entreprise peut pas fonctionner si ses collaborateurs sont pas, croient pas au projet et se sentent pas impliqués et donc apportent pas un maximum de ce qu'ils peuvent apporter, des bonnes idées, ne pas mettre de frein justement à des changements. Opérer le changement aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose de très compliqué parce que souvent il y a énormément de freins. Parce que justement, il ne va pas y avoir la bonne communication, le bon processus de changement appliqué aux ressources humaines, en l'occurrence. Et donc, voilà, tout ce travail-là, nous, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler par le prisme d'engagement, de travail sur la marque et de communication interne. Comment est-ce qu'on fait savoir tout ça? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens se sentent justement mobilisés? Et on peut appliquer la même chose avec les consommateurs, qui aussi peuvent être très apporter énormément à l'entreprise à partir du moment où le projet est bien communiqué, où il y a de la transparence, où il y a de la réciprocité aussi dans les bénéfices, dans savoir pourquoi je le fais. Et tout ça, c'est vrai qu'on voit quand même que c'est un changement de paradigme pour au moins toutes les grosses entreprises, celles qui existent depuis un certain temps, qui n'étaient pas du tout à travailler comme ça, qui travaillaient dans l'opacité, il y avait une culture du secret. Aujourd'hui, c'est tout le contraire et c'est super compliqué pour elles quelquefois de changer tout ça. Et c'est vrai que nous, en étant depuis toujours habitués à travailler sur le web social, à être vraiment dans l'échange avec les différents types de publics et un maximum de transparence, d'honnêteté, c'est une logique qu'on a toujours appliquée en fait aux marques et qu'aujourd'hui on essaye d'appliquer de plus en plus à différents types de publics.
Bien sûr, et c'est justement pour ça que ça me semblait intéressant d'avoir ton avis dans ce podcast, parce que souvent la plupart du temps il peut y avoir des actions qui sont menées donc, vers ce qu'on appelle cette fameuse économie circulaire qui pour nous doit être, comme je l'ai dit souvent, intéressante, profitable d'un point de vue économique, régénérative d'un point de vue environnemental et puis surtout inclusive d'un point de vue social. Et justement, je pense que la communication, le fait de permettre aussi l'engagement, c'est une des clés parce que déjà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'interactions. C'est pour ça que ça me semblait vraiment utile que tu puisses nous apporter cet éclairage. Et justement, même si tu as un petit peu déjà commencé à répondre à cette question-là, on sent souvent qu'il y a quand même une différence entre le déclaratif, genre les gens sont prêts à dire « oui, je suis prêt à acheter un produit plus cher parce que il va mieux rémunérer le producteur, par exemple », et puis en fait, les chiffres montrent qu'arrivé dans le rayon, bah, finalement, le portefeuille a le dernier mot, et donc on va continuer à acheter ça, même si ça tend à baisser, c'est quand même encore une grosse part du truc. Est-ce que ce besoin d'engagement, il est vraiment véritable, il se vérifie de plus en plus, mis à part dans les grosses actions menées par des ONG parfois ou des associations de consommateurs. Comment tu perçois cette nécessité de changement pour les marques?
Il y a une notion de temporalité qui est super importante. On voit vraiment d'année en année, nous ça fait voilà, une dizaine d'années qu'on suit un petit peu toutes les problématiques de transformation des entreprises sur différents aspects, mais notamment l'aspect, on va dire, qui est lié à leur impact environnemental et social. On voit que, par exemple, en ce moment, il y a des effets de mode, il y a des sujets qui sont un peu les premiers sujets à traiter, les plus urgents, les plus faciles aussi. Donc, par exemple, là, en ce moment, c'est la chasse au plastique, c'est la chasse, c'est en tout cas, il commence à y avoir des vraies interrogations autour de la surconsommation de la viande. Donc, on a des sujets comme ça qui sont déjà assez macro dans l'absolu, systémiques, parce qu'ils impliquent voilà, toute une filière, mais finalement sont pas si compliqué à traiter comparé à vraiment changer complètement mon business model, ma manière de produire, concevoir mes produits, et derrière, les commercialiser, les récupérer, la matière, en faire de nouveau quelque chose. Et ça, c'est encore, je dirais, un niveau encore plus avancé. Et c'est vrai qu'on voit qu'en fait, chaque année, il y a des nouveaux progrès qui sont implémentés. Je pense que les consommateurs qui sont aussi forcément, c'est eux qui choisissent. Donc, d'une certaine manière, il y a une éducation aussi qui se fait au fur et à mesure du temps par les médias, par les réseaux sociaux, par les conversations entre les gens quand ils se réunissent. Il y a de plus en plus, on sent quand même une espèce de repolitisation aujourd'hui des gens. On le voit sur les réseaux sociaux, les sujets qui animent. Commence à être de plus en plus sociétaux, ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'on sent quand même que voilà, il y a un tournant qui est en train de s'opérer, donc ça va peut-être vouloir dire qu'il y a une accélération de la prise en compte des enjeux qui va aussi se faire. Ça, nous en tout cas, on pense que c'est le bon moment pour vraiment pouvoir accélérer. Après, voilà, côté entreprise, il y a aussi une responsabilité de communiquer encore une fois clairement sur ces démarches-là. Aujourd'hui, on valorise pas assez, quelquefois, des vraies prises de position, des vrais changements au sein du produit. Parce que justement, on se dit que le consommateur, ça ne l'intéresse pas, et donc on va un peu passer à la trappe quelquefois des vrais progrès. Donc il y a un problème autant dans l'action en elle-même que dans sa communication et réussir à faire en sorte qu'on va intéresser en fait les gens qui ont le choix d'acheter ou de ne pas acheter. Après, il y a des choses qui se jouent à plus haut niveau. Quand on est dans du business to business, du B2B, là c'est vrai que on est moins sur le choix des citoyens, on est plutôt sur le choix de décideurs, qu'ils soient publics ou privés. Mais là aussi, indirectement, le citoyen ou le consommateur peut avoir son mot à dire. Et il commence à y avoir aussi quelquefois des actions un peu de lobby citoyen pour que voilà, des fournisseurs, des pouvoirs publics appliquent un petit peu plus, enfin soient un petit peu plus responsables ou appliquent en tout cas certaines nouvelles manières de travailler. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion de temporalité, d'éducation aux problématiques, et ça passe potentiellement pas mal par la communication, mais même quand on dit éducation, je pense que l'éducation nationale, par exemple, aurait aussi un petit rôle à jouer là-dedans. C'est clair, il y a du taf. Donc ouais, nous, en tout cas, on pense que beaucoup à la communication, mais il faudrait que globalement, tout le monde s'y intéresse beaucoup plus. Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas assez à ce qui est vraiment important, dans le sens où clairement, notre planète, on n'en a qu'une, et si on la crame derrière, va y avoir des impacts à tous les niveaux, sociaux, sur la santé, sur la biodiversité, et ça, on pourra pas en racheter. Donc, il y a ce problème quand même, on le voit, de prise en considération du danger, des risques, et c'est vrai que là où les entreprises ont largement de quoi apporter des solutions, aujourd'hui on sent quand même une forme d'inertie de leur part, en tout cas par rapport aux moyens qu'elles engagent dans d'autres dans d'autres sujets, aujourd'hui, on sent que voilà, il n'y a pas encore assez de moyens non plus et de prise de risque qui sont vraiment faites sur des sujets, notamment l'économie circulaire, qui est clairement encore hyper embryonnaire quand même dans la plupart des grosses structures, alors que c'est quand même une des seules solutions un peu réelles, en tout cas économiques, pour qu'on continue à avoir justement un équilibre entre un niveau de confort d'un côté et de l'autre côté préserver les ressources qui nous font vivre, quoi.
Ouais, tout à fait. Et justement, parlons concrètement, quelles sont les marques qui illustrent mieux justement cette idée d'engagement, que ce soit en France ou à l'international?
Alors nous, donc, on va dire rapidement, on parle autant d'engagement, quand on dit engagement sociétaux, on va dire, voilà, on va parler d'engagements sociaux, enfin, à portée sociale, à portée environnementale, à portée idéologique aussi, parce que, voilà, il y a aussi un vrai impact, quelquefois, dans certaines idéologies qui peuvent elles-mêmes faire en sorte qu'on bouge dans un sens ou dans un autre. Donc, on essaye aussi de défendre. Par exemple, avec un de nos clients, on travaille sur l'open design comme étant justement une forme d'idéologie, parce que c'est avant tout une idéologie, même si derrière il y a des process aussi économiques, mais qui peut avoir indirectement un impact sur l'environnement. Parce que justement, on revoit un petit peu la manière de fabriquer des choses, de les concevoir, et donc de les consommer, mais c'est une portée un peu plus indirecte. Aujourd'hui, elle n'est pas mesurable. En tout cas, on ne saurait pas dire qu'on sait la mesurer. Mais par contre, on sait qu'il faut d'abord changer les mentalités. Et les mentalités, on peut les changer en travaillant sur l'open design, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un dérivé de l'économie du libre, l'open source, qui est appliqué plutôt au code informatique. Et bien là, l'open design, c'est appliqué à la création d'objets, quoi.
Et là, justement, vous positionnez la marque plus comme une marque qui permet de le faire. Enfin, en anglais, on dit un enabler, mais je ne veux pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais en gros... J'ai pas de terme équivalent.
Il y a différents niveaux, en fait, surtout de la même manière sur les engagements. Les publics peuvent s'engager de plein de manières différentes envers une entreprise, et l'entreprise peut s'engager de plein de manières. Elle peut être actrice, elle peut être supportrice, elle peut éduquer uniquement. Donc, selon un petit peu... la stratégie, les moyens, la posture, voilà, on adapte aussi forcément son rôle dans...
Et puis la raison d'être de l'entreprise.
Et la raison d'être aussi. Nous, là, aujourd'hui, on va effectivement plutôt être promoteur, c'est-à-dire qu'on va apporter des moyens, on va sponsoriser, on va organiser des concours autour de l'open design sur ce sujet-là. Donc, on n'est pas acteur, c'est-à-dire que voilà, on est... On n'est pas nous-mêmes créateurs d'objets en open design, mais on va aider des membres de la communauté à faire des choses en open design. Donc, on leur apporte du soutien, des ressources, on leur explique un petit peu les enjeux qu'il y a autour, et quelquefois, on met en place des structures qui permettent de développer des projets en open design. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté, voilà, on se positionne un peu comme un label, quoi, à ce niveau-là. C'est un exemple parmi d'autres. Après, pour répondre
Après,
un peu plus
à ta... N'hésite pas à citer les marques en question, hein. Il n'y a pas de...
Ah bah c'est... ouais, non, mais c'est... en plus, c'est clair qu'on est plutôt assez content d'arriver à faire ce genre de choses avec eux. Il s'agit de Leroy Merlin, qui donc, voilà, est plutôt une très grosse marque avec énormément de poids sur le marché aujourd'hui de l'habitat. Et nous, on va dire, on travaille dans un petit programme un peu satellite, mais qui est de plus en plus intégré, on va dire, au modèle économique de Leroy Merlin. Et c'est vrai
En plus, c'est vraiment leur partie média, parce que de souvenir, c'est Du Côté de Chez Vous qui a été...
C'est ça, ouais. C'était Du Côté de Chez Vous qui était d'abord un média très descendant, hein, qui a raconté ses histoires, qui passionnait un paquet de gens tous les week-ends.
Voilà, sur TF1. Que ça passait à la télé.
Ah, ça a fait 20 ans, hein, quasiment. Donc, il n'y a personne qui a pu passer à côté de ça dans sa jeunesse. Et c'est vrai que, ben voilà, ils sont venus nous voir avec une vraie volonté de changer complètement le modèle, mais ils nous ont pas dit on veut devenir expert en open design. Ils nous ont dit nous on veut être référent sur tout ce qui est do it yourself, parce que pour le coup là nous on a notre offre et notre business est vraiment légitime. Et c'est après avoir fait même un premier proof of concept, on a un peu testé ça auprès de communautés, qu'on a identifié l'open design en fait comme une condition sine qua non. C'est-à-dire que si on ne s'engageait pas là-dessus, si on n'essayait pas d'apporter un minimum des solutions, une vision et quelquefois même des outils pour procéder, bah on n'arriverait pas à constituer une communauté autour du DIY, parce qu'en fait, on n'arriverait pas à promouvoir des projets ouverts que tout le monde pouvait se réapproprier. Donc là, voilà, on est sur des premiers niveaux sociétaux qui sont un mix entre une portée économique, une portée effectivement juridique, méthodologique au niveau du travail des designers. Mais on sait qu'il y a aussi, in fine, derrière tout ça, demain, une portée environnementale, une portée sociale, parce que c'est une autre manière de travailler, d'échanger aussi. Donc c'est super intéressant parce que voilà, ça imbrique
Il
beaucoup
y
de
a une
sujets
grosse
différents.
notion de savoir-faire aussi à partager, et le
Énormément
savoir-faire
de...
est facilement ça se partage, mais surtout ça permet l'intégration, le partage,
Bah, tu
etc.
crées des communautés en fait, et c'est voilà, aujourd'hui on sait que le pouvoir des communautés il est énorme, et notamment sur toutes les problématiques de changements sociétaux, c'est souvent le poids d'une communauté qui va complètement infléchir derrière la masse. En tout cas, c'est souvent des communautés qui sont actives, qui partagent des idées et qui ensuite vont passer à l'action pour vraiment faire changer les choses. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, notre métier consiste beaucoup à constituer ces communautés-là pour que justement il y ait vraiment cet engagement réciproque entre d'un côté l'entreprise qui a besoin d'elle et de l'autre côté la communauté bah, qui va chercher des moyens, et l'entreprise est là, enfin peut en tout cas en fournir beaucoup. Forcément, le pouvoir financier des grosses boîtes aujourd'hui, on ne peut pas le remplacer. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de quoi le remplacer. Demain, il y aura peut-être des moyens, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a une vraie interdépendance entre d'un côté le pouvoir qu'elles ont et de l'autre côté ben, des gens qui sont capables de faire. Et donc ouais, ça c'était un exemple, on va dire, de marque pour laquelle nous on travaille. Après, clairement, ben, dans les meilleurs élèves, il y a une marque qu'on cite tous, mais parce qu'il y a des vraies raisons à ça, c'est Patagonia. Qui ont vraiment complètement mis leur impact sur le monde et la société au cœur de leur raison d'être. Donc c'est vraiment dans l'ADN, et ils l'ont changé il y a très très peu de temps pour être encore plus ambitieux à ce niveau-là. Avant, ils étaient plutôt sur une logique de faire le moins de mal possible à la société. Aujourd'hui, c'est plutôt apporter des vrais progrès. Donc même là, on
Cette notion de
sent...
régénération déjà.
Voilà, c'est un peu la suite logique, c'est-à-dire 20 ans après, on constate que pas, enfin, limiter l'impact négatif qu'on peut avoir sur la société, c'est pas assez.
C'est
Il
pas
faut en fait
assez,
qu'on
d'autant
apporte
plus
même...
avec plus de 2 milliards de personnes qui vont accéder à un mode de vie comparable au nôtre d'ici
Clairement.
2030. Donc ça c'est sûr,
Donc
ça prend
c'est
beaucoup de
super
temps.
intéressant comme voilà comme entreprise, parce que autant sur l'environnemental que sur le social, enfin voilà, ils ont mis en place énormément de choses. Ils sont toujours perfectibles, ça c'est sûr, mais en tout cas ils ont clairement, je pense aujourd'hui, je dirais, parmi en plus des acteurs qui existent depuis longtemps. Donc c'est pas une boîte qui s'est créée il y a 2 ans et qui peut partir un peu d'un terrain vierge avec toutes les bonnes pratiques en tête et tout. Ils ont ouvert la voie à énormément de sociétés qui se sont inspirées de leur modèle.
Si je dis pas de bêtises, ils sont aussi à l'initiative ou en tout cas assez impliqués sur le mouvement des B Corp.
Ils ont, bah eux, ils sont clairement B Corp. Et ouais,
Alors peut-être
effectivement, ils ont.
avant de parler des B Corp,
Ouais,
vous pouvez
qu'est-ce
peut-être,
que c'est?
enfin je te laisse peut-être présenter les B Corp ou tu veux que je fasse?
Alors, bah vas-y, fais-le, parce que moi, je vais dire des bêtises si.
Oui, je peux en dire aussi, mais concrètement, c'est un mouvement qui donne un label finalement aux entreprises qui ont des engagements sociétaux forts. Et puis en fait, ça donne un ranking qui est sur, enfin une note sur 150 points à peu près, qui vont analyser les engagements sociétaux, enfin donc tout ce qui concerne l'environnement, l'emploi des personnes, tous les impacts sur la société finalement, j'en oublie beaucoup, mais il y a 5 catégories de critères. Parce que Wita est en train de devenir une bicorp, donc c'est comme ça que j'ai toutes les questions en tête, mais...
Ouais, bah c'est aussi quelque chose auquel on s'intéresse, forcément, parce que c'est... effectivement, il y a des vrais critères, ils sont évolutifs. Ce qui est intéressant, plus, c'est que justement, on sent, quand je parlais de temporalité tout à l'heure, on sent aussi que ce label intègre au fur et à mesure des exigences toujours plus importantes.
Oui, tout à fait.
Et c'est important parce que justement, on sait qu'on part de tellement loin, il y a tellement de travail à faire que il faut demander aux entreprises d'être de plus en plus radicales dans leurs choix.
Tout à fait.
Et en ça, en tout cas, Patagonia, il me semble qu'ils ont pas mal collaboré à la création de ce label, mais c'est peut-être un peu à vérifier. En tout cas, ils ont un système de financement pour des acteurs du type associatif qui justement apportent des solutions sur des problématiques environnementales ou sociales. Au niveau de leur fournisseurs, ils ont mis en place une supply chain, on va dire, qui est clairement très très contrôlée ils essaient de vraiment faire en sorte qu'il y ait un vrai équilibre entre leurs fournisseurs et les différentes étapes de la supply chain pour qu'il n'y ait pas de dépendance économique ou de mauvaises conditions de vie à un moment ou à un autre de la chaîne, sachant quand même qu'ils travaillent sur le coton, ils travaillent sur des matériaux qui souvent sont quand même manquent de transparence et clairement il y a énormément de mauvaises pratiques à ce niveau-là. Donc c'est une entreprise qui est assez modèle et qui, justement, c'est là où nous, on s'en inspire beaucoup dans le côté marque engagée, c'est qu'ils communiquent beaucoup, ils prennent position, ils ont pris position contre Trump à plusieurs reprises, publiquement, enfin voilà.
Ouais, c'est... Encore dernièrement, où les réductions d'impôts pour les entreprises américaines, ça leur faisait 10 millions et les ont reversés.
Ouais, 10 millions de dollars qu'ils ont reversés parce qu'ils ne voulaient pas du cadeau fiscal de Trump. Quoi. Donc,
ils les ont reversés quand même à des associations.
À des associations militantes, ouais, justement pour l'environnement, alors que c'était justement un cadeau fiscal qui était lié à l'impact environnemental. Il y a une vraie position militante, activiste quasiment de cette marque.
Et qui est en plus un exemple en termes d'économie circulaire également.
Et qui en plus développe de plus en plus de projets autour de la circularité. Ils sont beaucoup autour de tout ce qui va être réparation, durée de vie des produits.
Revente aussi entre les particuliers.
Donc voilà, c'est clair que voilà, il y a de quoi s'en inspirer, de la regarder en long, en large, en travers. Tout n'est pas parfait. Moi, je reçois encore des emailing avec du gros 50% dans l'objet de mail de leur part et des fois, ça m'énerve aussi. Mais quand on ouvre l'email, il y a quand même toujours aussi un sujet sur. Un matériau sur lequel ils sont encore en train d'apporter des améliorations ou sur une manière de produire tel ou tel produit pour qu'il dure encore plus longtemps ou un tuto pour réparer une veste ou un sac à dos. Donc il y a vraiment ce côté, tu sens que eux ça les anime et que c'est pas juste pour être à la mode. C'est clairement presque eux qui ont créé cette mode-là. En tout cas, ils y ont largement contribué. Et donc, pour tous ceux qui un petit peu se demandent ce que c'est une marque engagée, il y a juste à aller voir ce qu'ils font. Et en fait, demain, toutes les marques vont devoir être plus ou moins de se comporter de cette manière-là. En tout cas, nous, notre vision, c'est que clairement, les marques qui répondent pas à ce genre d'attente-là, ça va être compliqué pour elle de durer quoi.
Justement, Patagonia, ça a fait plein de petits et j'invite ceux qui l'ont pas encore écouté à écouter l'épisode numéro 4 avec Clément, le cofondateur de Opal, qui, je sais pas si tu
Ouais,
le connais.
tout à fait, ouais. Ils sont
Il
dans le
en...
sud-ouest.
Exactement, c'est pour ça que comme tu es un habitué du sud-ouest,
Tout à fait.
j'invite les gens à écouter ce numéro parce qu'il était assez intéressant également. Mais alors, effectivement, donc l'exemple de Patagonia est hyper intéressant, mais si on regarde aussi les entreprises qui cartonnent aujourd'hui, genre évidemment Amazon par exemple, qui à ma connaissance n'a pas vraiment d'engagement sociétal, mais qui représente en plus encore la consommation à outrance, le fait d'être livré en quelques heures alors que tu viens de commander sur Internet, etc. Ils réussissent sur plein plein de domaines, ils progressent, etc. Est-ce que en fait eux c'est pas le parfait contre-exemple pour te dire bah en fait l'engagement c'est un truc de bobo quoi?
C'est vu de l'extérieur rapidement, c'est vrai qu'on pourrait se dire ça. On pourrait se dire, bah, en fait, voilà, ce qui compte quand même, c'est le business et il y en aura toujours qui arriveront à s'en sortir. Mais pour bien suivre Amazon de près depuis très longtemps sur leurs pratiques, avec pas mal de scandales aussi qui ont éclaté au fur et à
Ouais,
mesure.
sur l'emploi en
Sur
plus.
l'emploi notamment, aujourd'hui sur l'impact notamment carbone de aussi tout ce qui est justement livraison, colis. Ben, en fait, pendant longtemps, ils ont un petit peu, on va dire, fait comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire ils ont pas trop pris position, pas trop communiqué dessus, baissé la tête et ça continue à avancer. Et aujourd'hui, en fait, on voit que c'est en train de changer, c'est-à-dire que Amazon s'est engagé à pas mal de niveaux pour améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. Alors après, c'est pays par pays, c'est pas toujours voilà tout de suite au niveau global, mais en tout cas, on sent qu'il y a une vraie évolution sur les conditions de travail qu'ils veulent proposer à leurs collaborateurs. À titre personnel, Bezos fait des dons assez monstrueux à des associations, à des ONG aujourd'hui.
Alors j'entendais qu'aux États-Unis c'était assez intéressant en fait fiscalement de faire ce
Ah,
type de
ça, il
don.
doit y avoir clairement un vrai intérêt et j'imagine que le mec sait très bien ce qu'il fait, mais je crois qu'il a fait un don de plus de 100 millions de dollars quand même assez récemment. Donc, à minima, ça peut avoir des impacts positifs, mais bon, par rapport aux dizaines de milliards que valent et génèrent aujourd'hui Amazon, c'est clair que ça reste un petit peu quand même du foutage de gueule. Donc voilà, et ça c'est des premiers trucs. Cette semaine, on a vu passer une annonce. Alors pareil, hein, c'est entre l'engagement et clairement la temporisation politique, où Amazon annonçait un objectif à 2030 de passer à 50% de tous ces acheminements de colis qui auraient un impact neutre. Donc, c'est beau sur le papier, mais 2030, c'est très loin, c'est largement trop tard, en tout cas
Ça
par
c'est.
rapport à l'impact qu'ils ont et au développement et à la vitesse à laquelle ils vont. C'est clairement une jolie annonce politique, comme savent faire d'ailleurs les politiciens. Et c'est vrai que là, voilà, là on voit que c'est une marque qui risque de plus en plus de se faire boycotter. Après, la difficulté, c'est ben, l'expérience client est quasi parfaite. Donc, à un moment, c'est chaque client, chaque consommateur, chaque utilisateur qui a aussi dans sa responsabilité de choisir Amazon ou de ne pas choisir Amazon. En tout cas, moi, à titre personnel, autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui boycottent Amazon. Et je pense que c'est un phénomène qui est en train de se développer. Donc, s'ils réagissent pas, s'ils apportent pas des solutions, il y a moyen que leur hégémonie soit quand même de plus en plus contestée et que, ben, plutôt que de l'avoir dans les 2 heures, je vais attendre 24 heures, ce qui en général va pas changer ma vie. Mais par contre, j'aurais pas l'impression d'avoir alimenté un peu un monstre qui, effectivement, aujourd'hui fait un peu sans foi ni loi, quoi.
Oui, bien sûr. Mais c'est surtout que Amazon. Merde, attends, j'ai un trou de mémoire. J'allais réagir par rapport à ce que tu venais de dire. Non, en fait, tu l'as évoqué à un moment donné, là. Les politiciens, finalement, On n'en parle pas. Enfin, est-ce que toi, en tant que professionnel, tu as été contacté par des pros? Est-ce que tu... Enfin, par des politiciens, pardon. Est-ce que tu as été... Est-ce que finalement, on n'en a pas parlé parce que enfin, même moi, ça me semble évident qu'il n'y a rien à attendre des politiciens, mais ton avis aussi sur la question, parce que bah, finalement, tu es un professionnel sur le sujet, ils peuvent tout à fait te solliciter aussi. Et puis, de souvenir, je crois que tu as quelques expériences quand même.
Ouais, on a déjà travaillé un petit peu sur des sujets politiques, mais nous aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, c'est qu'effectivement, comme aux États-Unis et très certainement en France de plus en plus, on va avoir des entreprises qui vont demander au pouvoir public de se positionner, d'aller plus loin dans leur levier d'action à eux, qui est surtout le cadre légal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que quasiment tous les projets de loi qui ont un tout petit peu d'ambition pour tirer un petit peu les enjeux sociétaux vers du mieux, c'est-à-dire soit sur les problématiques environnementales, soit sociales, sont désamorcés par toute la complexité du processus politique au niveau du légal. Donc, on a vu des lois justement sur l'économie circulaire se faire bien désamorcer comme il fallait. On a vu des lois
Sur le plastique, encore
sur le
récemment.
plastique, sur l'alimentation et la politique agricole. Voilà, dans les mots, on présente des choses qui sont super, enfin, qui sont même pas si ambitieuses que ça, mais qui à minima sont des progrès. Pour être des premières briques à quelque chose de meilleur. Et au final, que ce soit par le Sénat ou voilà, le système un peu
Système législatif, ouais.
de législatif, on supprime toute la substance un petit peu de ces lois-là. Et derrière, on dit que ben, les entreprises sont suffisamment conscients de ce qu'elles font et qu'on compte sur elles pour évoluer de leur propre chef. Mais en
Et puis
vrai,
sinon,
voilà.
on te dit que t'es là pour faire perdre des emplois,
Et
etc.
après, il y a le fameux chantage à l'emploi qui est une aberration totale parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui prouvent que l'économie, on va dire, de demain, avec une énorme transition écologique, pourrait générer au moins autant d'emplois qu'on pourrait en perdre. Mais là, on est sur cette petite période qui, à l'échelle finalement de l'humanité, est rien, où ben, voilà, on va mettre quelques dizaines, centaines de milliers d'emplois dans la bascule. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, il y a des gens qui seront certainement dans des situations difficiles, mais on sait que de toute façon, on va y arriver. C'est-à-dire, si on ne change pas, demain, notre planète, on va avoir des coûts monstrueux pour compenser tous les impacts négatifs, notamment au niveau de l'environnement, qu'on est en train de générer aujourd'hui. Donc, à un moment, si on regarde juste à 30 ans ou 50 ans, c'est déjà rentable de faire ces changements-là aujourd'hui. Mais les politiciens, voilà, ont une vision plutôt à très très court terme. Et aujourd'hui, c'est compliqué de les embarquer sur des projets qui défendent vraiment nos intérêts, quoi.
Ouais, et puis surtout, dans tout ce que tu as dit, on compte même pas encore le coût des services écosystémiques pour tout ce qui est pollinisation, qualité de l'eau, qualité de l'air, etc., etc. Et ça, c'est par rapport aux quelques dizaines, centaines d'emplois évoqués à chaque fois, enfin, ces quelques emplois-là sont risibles à côté de toute cette valeur-là.
Bah, c'est ça en fait, c'est ce qui est assez dingue. Il y a pas longtemps, j'ai lu un article sur un des hauts responsables du Pentagone, donc de l'armée américaine, qui mettait une énorme alerte sur l'impact économique du réchauffement climatique sur les bases de l'armée américaine, en disant qu'avec les feux de forêt, la montée des eaux et quelques autres petits phénomènes climatiques sympathiques, ils allaient certainement avoir des coûts de plusieurs dizaines de milliards de dollars, parce que leurs bases, elles sont souvent aux avant-postes, dans des zones un petit peu dangereuses. Donc c'est hyper cynique d'une certaine manière. C'est l'armée, enfin voilà, c'est peut-être pas le truc qui est censé sauver le monde, mais c'est drôle de voir que même au sein d'un gouvernement Trump qui fait n'importe quoi dans tous les sens. Il y a des mecs qui sont quand même chargés souvent de tuer des gens, qui vont mettre des alertes par rapport au réchauffement climatique parce que ça va avoir un coût énorme à leur niveau, quoi.
Ouais, mais t'inquiète, Trump a dit que c'était une fake news, donc tout va bien.
Donc ça va.
Et justement, pour les responsables de marques, qu'ils soient entrepreneurs ou tout simplement dans des entreprises ou même dans des associations, parce que ce sont des marques également,
tout à fait.
Est-ce que t'as des conseils, des choses à mettre en place? Par quoi faut commencer finalement?
C'est vrai que souvent c'est ça le problème, ou la difficulté en tout cas, c'est savoir par quoi on commence, parce que des sujets, il y en a énormément, on est attendu sur plein de choses, et donc c'est compliqué de finalement savoir, voilà, est-ce que moi je veux sauver le monde en enlevant le plastique de toute mon activité, ou est-ce que finalement je dois plutôt faire en sorte que mes salariés, je sais pas, se sentent bien entre eux, qu'il y ait de la diversité, qu'on travaille avec des personnes handicapées, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui se mélangent et c'est très compliqué. Nous, en tout cas, un peu ce qu'on prône et notre manière de travailler, c'est de justement travailler cette fameuse raison d'être, on en parlait au tout début de l'échange, c'est-à-dire un peu le à quoi je sers, quoi. C'est pourquoi j'ai fait une entreprise, à quoi elle doit servir sur cette planète. Donc c'est des outils, hein, de notamment de travail sur la marque, qui permettent de définir vraiment le pourquoi je suis là. Et à partir de là, donc on essaie de justement intégrer dans ces outils-là une dimension sociétale, c'est-à-dire qu'on travaille sur des raisons d'être à portée sociétale. Et à partir de là, alors forcément, on regarde l'historique, la légitimité de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait, dans quelle activité elle est, parce que forcément, il y a des activités qui ont un impact plus ou moins grand sur certains sujets. Et donc, à partir du moment où on aura défini un peu cette raison d'être, on va définir des engagements majeurs sur lesquels la marque doit vraiment se positionner et essayer tout au long de sa durée de vie, finalement, d'apporter en permanence des progrès. Et donc, l'idée, c'est vraiment de sélectionner ceux sur lesquels on peut vraiment, d'une, on est légitime, et deux, on peut prendre la parole et créer un vrai réflexe pour ceux qui connaissent un petit peu les problématiques de marque. On crée des territoires avec des valeurs, avec des messages clés pour lesquels les gens nous reconnaissent. Le dépassement de soi pour Nike, par exemple, avec Just Do It, avec toutes ces campagnes, c'est quelque chose qu'on assimile complètement à Nike aujourd'hui. Bah, de la même manière, nous, ce qu'on dit et de la manière dont on travaille, c'est demain, faut que vous soyez connu pour avoir un impact sur un sujet sociétal très fort, ou plusieurs qui peuvent être connexes. Starbucks, par exemple, qu'on suit aussi depuis assez longtemps, parce que finalement, sur certains sujets, ils ont aussi un impact sociétal assez important, travaillent énormément sur les logiques de diversité.
Oui, tout à fait.
Parce que justement, ils ont des centaines de milliers de personnes qui travaillent pour eux, des communautés, notamment dans un pays, les États-Unis, où ils sont hyper présents, qui a quand même des grosses difficultés en termes de melting pot. Donc, eux se sont positionnés un peu comme... comme en tout cas, ils essayent de travailler à promouvoir la diversité, les vertus de la diversité. Ils ont mis un programme en place pour faire travailler des migrants. Enfin voilà, ils essaient vraiment d'apporter des solutions sociales assez importantes. Après, de l'autre côté, ben, ils ont toujours des touillettes en plastique et ils évoluent tout doucement sur l'environnemental, mais c'est pas au cœur de leur raison d'être et de leurs promesses qu'ils font finalement aux différents publics qu'ils vont avoir. Et donc voilà, nous ce qu'on se dit, c'est faut bien travailler sur à quoi je vais servir, quels sont mes combats, et essayer de multiplier des actions pour alimenter vraiment ses combats, que ce soit dans son business model directement. Si je me positionne effectivement sur l'environnement, ben clairement l'emballage en plastique, tôt ou tard, il faut que je trouve une alternative. Ça, c'est un sujet aujourd'hui pour pas mal de d'entreprises. Mais demain, ce sera certainement quelque chose d'encore plus ambitieux. Ça va être mon produit en lui-même. Il va falloir qu'il soit réparable à l'infini, soit qu'une partie de ses matériaux puisse être réutilisable, soit biodégradable selon les produits. Et c'est vrai que tout ça infléchit complètement après la stratégie de l'entreprise. Quand tu te positionnes au niveau de ta marque sur des sujets sociétaux, ça va forcément avoir un impact sur la stratégie RSE, la stratégie d'innovation, la stratégie même RH,
Le
quel
business
type de
model.
business model. Donc nous, on ne travaille pas là-dessus, mais par contre, on donne des directions pour la marque et on donne un vrai socle sur lequel bah, les gens, en tout cas, savent pourquoi demain ils vont consommer la marque. Et ce qu'on dit souvent, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont consommer une marque plus pour son action sur la société que pour son produit en lui-même. Alors Amazon est un bon contre-exemple, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi en train de changer. Donc on sent qu'il y a en tout cas ce vrai sujet qui est en train d'arriver, mais il y a un vrai travail de positionnement sur ces causes. Sur ces progrès qu'on veut apporter et de cohérence dans la durée. Il ne faut pas changer tous les 3 mois en se disant bah tiens, le nouveau sujet à la mode, c'est le plastique, donc on va aller sur le plastique. Et celui dans 2 ans, ça va être, j'en sais rien,
La parité homme-femme ou quoi.
la parité homme-femme, qui est d'ailleurs très à la mode aussi en ce moment. Donc c'est très bien que d'autres le fassent. On peut aussi faire des choses, mais sans en faire un fer de lance en termes de communication. On peut très bien changer des choses, mais sans tout de suite en faire toute une.
Faut que ça passe cohérent avec la raison d'être finalement.
Faut que ce soit cohérent, sinon on va diluer aussi les engagements. Et on voit, nous, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises qui sont dans cette situation-là, en fait, qui s'engagent sur plein de choses, souvent à petite échelle, mais qui vont faire plein, plein, plein de petits projets. Un peu dans l'environnement, un peu dans le social, un peu dans la santé. Et finalement, ben, ils émergent pas, ils n'ont pas une promesse
C'est trop
forte, ils n'ont
décousu.
pas un message sur lequel tu vas pouvoir te dire, ah ben ouais, eux, ils avaient déjà fait ça avant, et là, ils sont toujours sur ce sujet-là. Et c'est un vrai piège, parce qu'en fait, ils diluent complètement le potentiel d'adhésion et d'engagement justement
On y
de la
reviendra.
part des publics
Ouais,
qui
et puis
pourraient
même
se
des
dire bah ouais
collaborateurs en
voilà et des
plus.
collaborateurs parce qu'à un moment bah, si t'es sur tous les fronts t'es nulle part
C'est plus le chemin et la cohérence du chemin emprunté finalement qui est important que la destination, quoi.
C'est ça, vaut mieux faire moins mais mieux, ça on le dit à peu près sur tous les sujets. Et en vrai, ben, c'est pareil en termes de communication et d'action, quoi. Vaut mieux pas se diluer parce que l'ancrage qu'on aura dans la tête des gens sera moins fort. Il y aura une vraie dilution des messages. Et ça, en tout cas, nous, en tant que professionnels, on va dire, de la communication, on sait que c'est un piège. Donc, vaut mieux réduire la voilure à la rigueur, ou en tout cas plutôt concentrer ses efforts sur des sujets sur lesquels on a vraiment des choses à raconter et qui vont construire la marque au fur et à mesure, quoi.
Finalement, chaque effort, comme tu dis, c'est un investissement, et donc pour que l'investissement à la fin soit cohérent, il faut que ce soit mis dans le même pot, quoi.
Faut que tu puisses le raconter, que ce soit légitime, que ça contribue à l'histoire globale que tu veux raconter de ta marque. Et c'est vrai que cette notion de cohérence et aussi de projection dans le temps, aujourd'hui, à une époque où on est dans du court-termisme absolu, il faut faire le buzz, il faut qu'on parle de soi tout le temps, c'est compliqué. Parce que justement, mais on voit que voilà, toutes les marques qui réussissent vraiment bien, en tout cas dans les plus nouvelles aussi, elles travaillent toutes de cette manière-là. Airbnb a complètement trahi sa raison d'être. Eux aussi, c'est le côté justement diversité, être être bien partout dans le monde et ils l'appliquent tant avec leurs collaborateurs que dans toutes leurs propositions de valeur qu'ils font vers les communautés extérieures. Donc c'est intéressant comment des marques qui sont toutes jeunes finalement ont appliqué beaucoup plus vite des principes qui finalement sont des principes de communication qui existent depuis des dizaines d'années, mais on s'est complètement perdu dans des petites choses symboliques qui font parler.
Genre le buzz, le court terme, etc.
Le court terme, quoi. C'est le problème de beaucoup de transformations, hein. C'est qu'on pense effectivement à court terme.
Ok. Et un grand merci, Gilles, pour cet entretien. Est-ce que t'as des choses à ajouter
Le petit mot de la fin. Nous, en tout cas, on a une sensation qu'il y a des énormes urgences, que tout le monde réagisse. Et je dirais tous ceux qui peuvent écouter ce type de contenu, chacun peut agir. Que vous soyez décideur d'une entreprise, forcément, vous avez un plus grand pouvoir, mais vous êtes juste consommateur. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous consommez. Et c'est important aussi de réfléchir à ça quand on est un simple consommateur, entre guillemets.
Un portefeuille aussi, un bulletin de vote, finalement.
C'est ça, c'est voter. Consommer, c'est voter, quoi. Donc, c'est important que chacun y réfléchisse et se dise, quand je consomme cette marque-là, cette entreprise, je choisis un niveau d'engagement et il faut qu'il soit cohérent avec mes valeurs à moi, quoi.
Nickel. Et si les gens veulent te contacter, on passe par où? On te suit comment?
Alors, il y a plein de choses, hein, mais il y a Twitter, @Gilles...
Tu restes sur Twitter.
Ouais, je suis encore un peu sur Twitter. Donc, c'est @GilUsful, GILUZFUL. Et sinon, on a un petit mail sympa qui s'appelle contact@useful.fr. On y répond, contrairement à d'autres entreprises. Et, et c'est un super moyen de rentrer en contact avec nous.
Ok, bon, bah nickel. Un grand merci et je te dis à plus.
Merci à toi, Brieux. Ciao.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.